Le psaume sous les étoiles, chapitre 2. Mon frère Nicolas arriva à Alès le surlendemain. J'étais tout à fait remis et gaillard, et le pressais de partir le jour même pour la Valfrancesque, car le souvenir des prisonniers assommés par leurs gardes ne me laissait aucun repos. Une force inconnue m'attirait au Mas Roger comme vers son fort une bête blessée. Nous partîmes donc. Et cependant que nous allions au petit trot de nos mules, et qu'ayant dépassé Anduze, nous entrions dans le vert pays des châtaigniers, je me sentais bouleversé dans le fond de l'âme. « Et quoi ? » me disais-je. « Est-il possible que j'aie dormi si longtemps au bord de cet abîme ? Nourri parmi les paysans que j'aime, dans notre Mas Roger comme au château du Montredon, je les avais vus mêlés, catholiques anciens et nouveaux. Il me semblait encore les entendre, qui maudissaient d'une commune voix la cabale et se mettaient d'accord sur ce que les braves gens ont tous le même bon Dieu. Perdus dans nos montagnes, il faut dire aussi qu'on nous recherchait peu à cette époque pour le fait de religion. Notre curé, le vénérable abbé Bastide, originaire du hameau de Cripsoul dans la paroisse de Bassurel, nous connaissait tous de longue date. Si nous manquions aux offices et qu'il s'en avisa, il venait nous chercher à la maison, nous tancer rudement, mais paternellement, sans amertume, et il ne lui fut point venu à l'idée de nous faire mettre en prison. Plus je songe à cet homme excellent, mieux je comprends que sa méthode était la bonne. Il voulait que tout se passât entre gens de la terre, en dehors de l'intervention des puissances, et c'était la sagesse même. Pour moi, dans ce conflit dont je pressentais la menace, qu'allais-je faire ? C'est dans la Bible, à la vérité, que par les soins de ma bonne mère, j'avais appris à lire. Mais le curé Bastide m'avait enseigné le catéchisme, avec un peu de latin et l'histoire sainte. Puis j'étais parti du Mas Roger en 1692, à l'âge de 12 ans, pour m'en venir à Alès, chez mon bon maître Baduel, qui était l'homme le plus tolérant du monde. Il occupait sa charge de notaire depuis 1680, et avait dû abjurer en 1682, lors de la déclaration royale qui exclut des offices de notaire ceux de la religion prétendue réformée. Il était d'une bonté parfaite et toujours gai. Je ne l'ai jamais vu en colère. Sous un tel maître, j'appris de bonne heure que les formes extérieures du culte demeurent peu de choses au regard de Dieu qui sonde les cœurs et ne connaît que les braves gens. Après 6 années de séjour auprès de lui, j'en avais passé 4 dans la riante Toulouse, entouré de joyeux compagnons, m'intéressant aux fêtes plus qu'aux messes. J'en revenais maintenant empli de bienveillance envers tous les êtres, ne demandant qu'à aimer la vie, à jouir du sourire des femmes, du parfum des fleurs. Et voici que la brutalité de quelques soudards mercenaires rebut les nations envers un peuple désarmé, un peuple qui était mon sang et ma race, me rejetait brusquement dans une détresse morale insondable. Qu'allais-je devenir ? Isabeau avait-elle dit vrai ? Me faudrait-il choisir et renier des souvenirs qui m'étaient chers et tenaient à ma vie même ? Il me revenait en foule maintenant que nous approchions du pays natal, et il s'accompagnait d'une musique de psaumes que je ne pouvais bannir et qui me pénétrait. Je revoyais mon aïeul Élisée à son agonie, refusant les sacrements que lui apportait son vieil ami, le curé Bastide, et chantant au pas de la mort « À toi, mon Dieu, mon cœur monte, en toi mon espoir est mis. » Je revoyais mon père Jérémie, surnommé Peyrobe le Juste, qui dirigeait maintenant notre ménage de famille, dont le domaine s'étendait sur une vaste châtaigneraie, des noyers au bord du Gardon, des planches de labour, des banquettes ou bancelles de vigne, et sur cette fameuse terre noble du Rivet, prairie toujours grasse et verte, où se fauchaient par an 2 coupes et 1 regain que nous appelions Terceirol. Et ma mère, ma chère mère, autrefois si jolie, cette fermine fontanin du Pompidou, maîtresse femme qui gouvernait la maison et le peuple des travailleurs. Je la revoyais avec sa cagnotte noire, sa faute grise, gourmandant les servantes des lobes, quand le soleil allumait à peine les sommets de la came de Bar et que nous restions encore dans l'ombre violette de nos châtaigniers. Je la suivais, pendue à sa jupe, comme autrefois, chaque matin, quand elle allait elle-même chercher l'eau pour boire dans son joli ferrat de cuivre à notre source de la Grottée. Je visitais avec elle les vastes étables où sommeillait l'hiver tout un cabal de près de 200 bêtes à laine, bêlant de nostalgie, rêvant peut-être des pâturages sur les hauteurs où on les mènerait à la fin de mai. Le four à pain fumait, les abeilles du rucher bourdonnaient, les mules de labour, noirodes, frappaient du pied. Je taquinais Cézette Galissard, notre baillesse, cependant qu'elle faisait gicler entre ses doigts le lait de la vache dans la seille. Je courais après les chèvres folles et suivais des yeux l'envol des pigeons blancs, et je croyais encore entendre le caquetage des poules saluant l'arrivée de ma mère et qui m'avait servi de réveil bien des ans. Et sur tous ces rappels d'autrefois, délicieux ou puérils, flottait toujours cette musique des psaumes qui avait bercé ma plus jeune enfance. Elle évoquait en moi l'odeur des fènes et des bruyères, la fraîcheur des coucous et des marguerites, l'éclat des narcisses des prés dont on suce la fleur sucrée quand vient la prime et que nous appelons des mailles, le goût du miel brun de nos ruches et les dimanches de joie pure sous notre ciel si bleu quand, parés de nos beaux habits, nous allions écouter Damoiselle Idelette qui, après la messe, nous faisait le culte huguenot à mi-voix dans la grande salle du château. Et cependant que je rêvais ainsi, le bon Nicolas, qui était mon aîné de 5 ans, hâtait les mules de la voix. « Allons, l'amour !» disait-il. « La fousque ! Allons ! Hi-ho !» Il devait succéder à mon père dans la conduite du bien familial. Il ne pensait qu'à la terre et à ses présents. Son grand soulas était de jouer aux boules le dimanche à la levée du gardon. Il était aussi grand chasseur et marcheur infatigable. « Jeannot, me dit-il enfin, dors-tu ou boudes-tu ? On dirait qu'il ne te plaît guère de revoir nos châtaigniers. On t'aime bien chez nous pourtant. Tu verras quelle belle moisson nous allons faire. Et comme les prairies sont drues, notre cabale de brebis a prospéré dans tout son croix. La châtaigne s'annonce bien, les raisins gonflent leurs panses, et nous serions certes les plus heureux du monde si on nous débarrassait de l'abbé du Sheila. Ah, mon ami, tu n'imagines point les inventions maudites de ce persécuteur. Il a d'abord fait changer presque tous les curés de chez nous, et on les a remplacés par des étrangers qui parlent pointu et n'entendent pas notre langage. Nous avons, nous, la chance de conserver notre vieux curé Bastide, mais il va bientôt se retirer, et je ne sais ce qu'il adviendra, car au Montredon et au Mas-Roger, on ne se gêne guère pour prier Dieu selon l'us de nos anciens pères. Depuis qu'il rôde dans le pays, tout le monde l'exècre, cet abbé du Sheila. Il fait arrêter les gens au moindre soupçon, qu'ils sont allés aux assemblées, les garde en prison, leur met les jambes entre deux poutres serrées par des écrous, en sorte que les malheureux ne peuvent s'asseoir ni dormir. Il les fustige de sa main, puis il les expédie sous bonne escorte vers Saint-Hippolyte, et on n'entend plus parler d'eux. Or, il suffit qu'ils s'acharnent après les assemblées pour qu'elles se multiplient, et que chacun y veuille courir comme au sel la brebis. Et nos prophètes font, je t'assure, qu'elles ne chantent point. Ils donnent le signal pour tel endroit, tel jour, telle heure, et le diable n'y ferait rien. Chacun s'y précipite. On y voit même aller parfois d'anciens catholiques. Notre père nous dit que, du temps des temples, on ne courait point tant au sermon des ministres. Que dis-tu de ces choses, cadet, toi qui as étudié dans les livres ? Mon bon Nicolas, que veux-tu que j'en dise ? Je n'ai jamais vu ni entendu de prophète, et je m'étonne fort qu'il s'en soit élevé parmi nous. Les connais-tu, toi ? Et de quel pays proviennent-ils ? De quel pays ? Mais ils sont tous d'ici. Tous les villages, tous les hameaux ont leurs prophètes, et nous les connaissons tous. Tu n'as certainement pas oublié Abraham Mazel, de Falguière, ni Pierre Esprit Séguier, de Majestavol, ni Salomon Couder, de Vieljeu. Ils sont les trois principaux du canton. Ils se disent inspirés de l'esprit et font de longs sermons, tout comme de vrais ministres. Et comme je paraissais un peu stupéfait, Nicolas ajouta « Oh, ils ne sont pas les seuls qui se mêlent de prêcher. De tout petits enfants, qui ne savent même pas encore parler à ce qu'on dit, tombent tout à coup en extase et se mettent à discourir d'abondance dans la langue des livres, s'il te plaît, poussés par une force intérieure surprenante. Est-ce le Saint-Esprit qui les anime, ou bien, comme dit le curé Bastide, le démon qui les possède ? Qu'en dis-tu, Jean ?» Et comme je me taisais, Nicolas soupira et conclut en hochant la tête. « Tout cela, mon cadet, ne marque rien de bon, et mieux vaudrait qu'on s'occupât un peu plus des terres et des troupeaux, mais un peu moins des prophètes. » Que d'exclamations à notre arrivée au Mas Roger, que d'embrassades! La paix de Dieu était sur nous. Elle noyait dans un azur sans fond les sinistres fantômes qui m'avaient assiégé. Ils s'évanouissaient comme un vain rêve à l'approche de ces lieux chéris, à l'odeur forte des prés et des genestières. Ma sœur Nicole avait couru au château dire aux Deleuze que nous étions là. Et bientôt elle revenait avec une jeune fille que j'eus d'abord peine à reconnaître tant elle avait grandi. C'était Florette, ma jolie Florette que j'avais laissée presque enfant et que je retrouvais transfigurée en une fée merveilleuse, blonde comme le soleil et jaillissante de beauté, de franche allégresse. J'étais ébloui et presque intimidé quand elle s'élança dans mes bras, criant toute rieuse « Jean, mon Jeannot, te voilà revenu, et que je suis contente !» Elle me baisa trois fois sur les joues, selon l'usage montagnard qui nous vient des Vaudois, par les Alpes jusque dans nos Cévennes, ainsi que le comptaient nos bons anciens. « Ah, Florette, lui dis-je, que je suis content moi aussi de te revoir, de vous revoir tous. Comme tu as grandi, Florette. Il me semble que tes cheveux ont blondi, tes yeux bleuis. Mets-toi là, tout près de Nicole, que je vous vois bien, toutes deux. Elle est toujours ma brune sœurette aux yeux de charbon ardent. Elle est le midi embrassé, le brugnon noireau qui agace la soif. Mais toi, Florette, tu es le matin épanoui, tu es la fleur de péché grande ouverte dans le ciel pâle. » Elle éclata de rire. « D'abord, je ne veux pas que tu me compares à la fleur du péché, qui est une fleur bête, et Nicole n'est pas un brugnon, grand moqueur. » Vraiment, elles étaient charmantes l'une et l'autre, et je les embrassais de bon cœur. « Maman Fermine, dit alors Florette, nous allons au Montredon, et veux-tu que je vienne ce soir souper avec vous ?»« Tu sais bien, ma petite fille, qu'il fut toujours entendu que vous viendriez prendre avec nous le premier repas du soir, au retour de Jeannot. Tu diras donc à ton aïeul et à ta tante que nous vous attendons tous trois sans faute ce soir. Nous aurons, je pense, le curé Bastide, et l'on va tuer le Vaugras, puisque l'enfant prodigue est revenu. » De notre Mas Roger au château du Montredon, il y a à peu près un quart de lieue. Le vieux Timothée Deleuze s'était retiré de bonne heure dans ce manoir de famille, après avoir servi comme lieutenant au régiment d'Auvergne. Il vécut là en gentilhomme campagnard, grand chevaucheur et chasseur entre sa femme Gabrielle de Tufani et sa sœur Idelette. Il avait eu deux enfants, cette Sibylle qui épousa mon maître Baduel et qui était la cadette, et un fils Daniel qui s'était fait ministre et avait dû émigrer en 1685. La pauvre Gabrielle étant morte jeune à 30 ans, sa belle-sœur Idelette, qui était de beaucoup son aînée, lui avait succédé dans la direction des affaires du château. Elle avait tenu ma mère sur les fonts baptismaux, au Pompidou, et nous aimait tous beaucoup. Comme Guillemette Baduel, elle était demeurée irréductiblement huguenote. Elle allait à la messe en considération du curé Bastide, puis rentrée au château, elle faisait pénitence, lisait la Bible et chantait des psaumes. Quant à Timothée Deleuze, il était, après mon maître Baduel, l'homme le plus dégagé qui fût des préoccupations confessionnelles. Il tenait avant tout à la paix publique, garantie capitale de la prospérité du pays. Les semailles, les récoltes, le croix des troupeaux étaient ses grandes préoccupations. Il pensait d'ailleurs que l'on doit obéir au roi en toutes choses, et même pour la religion. Il aimait son terroir avec passion. La grande souffrance de sa vie était l'exil de son fils Daniel, le ministre. Il lui en voulait certainement. Il le blâmait d'avoir sacrifié à de simples formules religieuses, comme il disait, des affections et des intérêts positifs. Il ne l'enchérissait pas moins, et en secret, il l'admirait, vivant ainsi le malheureux vieillard profondément atteint d'une blessure toujours prête à se rouvrir. Mes souvenirs ne remontent guère au-delà de 1684, année où Sibylle Baduel vint chez son père au Montredon pour y mettre au monde une fille, Florette, et mourir des suites de couches, à l'âge de 29 ans, pleurer de tout le pays où le souvenir de sa beauté vivait encore. Ma mère allaitait alors ma sœur Nicole, âgée de 15 jours. Elle prit aussitôt la petite Florette et la nourrit. C'est ainsi que nous fûmes élevés comme frères et sœurs, Florette et moi, et qu'une affection jamais troublée lia de plus en plus les gens du Montredon à ceux du Mas-Roger, malgré que Timothée convoita toujours notre terre noble du Rivet. Au surplus, cette affection se témoignait en toute égalité, et sans que le blason de Timothée lui fût jamais sujet de hauteur à notre égard. Il faut dire là-dessus que chez nous, les ménagers, voire les simples cultivateurs, furent toujours des hommes libres, et que s'ils possèdent une terre noble, c'est-à-dire franche de taille, ils s'en peuvent dire ouvertement les seigneurs. C'est ainsi que mon maître Baduel était seigneur de la Liquière, et mon grand-père eût pu porter le titre de seigneur du Rivet que lui donnait par moquerie Timothée de Leuz. Comment exprimer dans le détail les sentiments d'émotion délicieuse, de plénitude de vie qui m'animaient ce jour-là en retrouvant ma terre natale, ma famille, mes amis. De notre vaste terrasse, tout enivrée de l'odeur des violiers et des menthes, je découvrais, je reconquérais mon pays. J'en reconnaissais les forêts, les masses, les domaines. Je comptais les maisons de la Fabrègue, là-bas, au-dessus de Sainte-Croix, et vers le couchant, je saluais la Came de Bar et l'Hospitalet. Je me perdais à suivre la vallée toute verte de noyers, de vignes et de prairies qui marquent un profond sillon vers Bias et Molaison, à travers un fouillis de rocs, bruns et roses, ou dorés comme la pelure d'un lion. Ah, quelle joie m'enivrait ce matin de juin, baigné des parfums forts de mon pays, cependant que je cheminais sous les châtaigniers, dans la grande allée qui mène au château de Montredon, et que Nicole et Florette bavardaient et riaient à qui mieux mieux. Je retrouvais en toute chose ma sœur Nicole, telle que je l'avais quittée, mais Florette m'était toute neuve, et je ne pouvais me lasser de la regarder, de l'entendre. Elle était devenue une superbe créature, dans tout l'éclat de sa beauté. Son profil, ses gestes, et surtout sa voix, me rappelaient tout à fait Isabeau. Elle avait de sa sœur le nez très légèrement busqué, le menton volontaire, les lèvres rouges abondantes en pulpe généreuse. Mais pour le reste, quel contraste! Sous une abondante chevelure d'un blond cendré, rutilante au soleil, la chair de son visage était rosée et nacrée. Ses délicates narines frémissaient au moindre émoi. Dès qu'elle ouvrait la bouche, deux mignonnes fossettes marquaient ses joues. Et qui pourrait dire le sortilège de ses yeux? Ils étaient d'un bleu profond, limpide comme l'azur sur la montagne, étrangement bordés de longs cils très noirs. Une tendresse infinie émanait d'eux quand ils vous regardaient, candides et ravis. Le château était un peu plus envahi qu'autrefois par le lierre et l'espargoule qui cachaient presque maintenant la vieille devise des Deleuze. Else fait feu clair. Sommant un écu où tenait une yeuse, c'est-à-dire un chêne vert, Else en languedoc, d'argent sur champ d'azur. Idelette et Timothée me firent grand accueil. Et tel est l'état des vieilles gens que je trouvais sur leurs lèvres les mêmes paroles que jadis, répondant aux mêmes préoccupations. Sur toutes ces franges effusions, le soir, quand nous fûmes réunis à la table de famille, un nuage pourtant planait. Le curé Bastide allait partir. On le remplaçait par un étranger, l'abbé Fleury, qui devait arriver le jour même. Dès que nous avions su la nouvelle, dans l'après-midi, j'étais allé à Sainte-Croix, où je trouvais notre vieux curé qui se promenait dans son jardin, fort triste. Il m'embrassa tendrement et me dit aussitôt « Oui, je m'en vais, mon cher enfant. Je pensais demeurer ici quelque temps encore, mais l'âge nous surprend sans qu'on s'en avise. Je vais donc vous quitter et me retirer dans mon hameau de Cripsoul, auprès de ma sœur Ursule, qui est presque aussi vieille que moi. Je cultiverai là-haut mes laitues et mes giroflées, et nous te ferons manger, quand tu viendras nous voir, des tartes de nos prunes. » Car je pense que tu les aimes toujours. » En écoutant l'excellent prêtre, je me sentis bouleversé. J'avais les larmes aux yeux, et je compris que je l'aimais beaucoup. « Je venais vous chercher, mon père, » lui dis-je. « On vous attend au Mas-Roger pour souper ce soir, en l'honneur de mon retour. Tu remercieras ta mère et ton père, mon enfant, et leur diras que je me fusse volontiers rendu auprès d'eux, mais j'attends mon remplaçant ce soir même, et doit lui faire les honneurs du presbytère. » Donc, le soir, à la table familiale, le départ du curé Bastide fut l'objet de longs propos. « C'est l'abbé du Sheila qu'il fait partir, » dit demoiselle Itelette. « C'est certain. Les façons chrétiennes de Bastide ne conviennent point à ce persécuteur. Mansuétude et charité ne font pas ménage avec orgueil et fanatisme. Que de fois notre curé n'a-t-il pas fait échouer les manigances de ce maudit contre l'un de nous, dans le canton? Encore l'autre jour, vous le savez, des fusiliers qui passaient sous l'Aubrède ont arrêté le vieux berger François Bringuier, qui est un pauvre simple d'esprit, sous couleur qu'il l'avait entendu chanter un psaume. Ils le menèrent à Bar, où se trouvait pour lors l'abbé du Cheila, qui tout de suite inculpa Bringuier et se disposait à le mettre en prison, lorsqu'arriva le vieux Bastide sur sa mule. À toutes les questions qu'on lui faisait, Bringuier répondait niaisement « Je vous dis que je ne chantais pas un psaume, je chantais le Bouvier. « Voulez-vous, monsieur l'archiprêtre, dit le curé Bastide, inviter ce pâtre qui est l'une de mes ouailles à nous chanter ce Bouvier dont il parle tout le temps ?» Et comme l'avait deviné le curé, c'était bien la vieille chanson en langue d'oc que notre pauvre imbécile avait chantée. « Quand le Bouvier vint d'Elora, plantos un aiguillado. » Les fusiliers le reconnurent tout d'une voix. On fit silence un instant. Puis Timothée Deleuze, qui était fort enseigné sur les choses anciennes, parla en ces termes. Les fusiliers ne furent point trop mal avisés quand ils prirent le Bouvier pour un psaume, car nous avons un psaume dont une reprise est justement sur l'air du Bouvier. Israël s'égaye en son cœur de l'Éternel son Créateur. Il faut savoir, mes amis, que si les psaumes de Marot et de Bèze sont un des monuments de la poésie française, leur musique, d'autre part, s'inspire en droiture des vieilles chansons populaires du pays, ce qui confère à la religion réformée de France un double caractère national auquel nul autre culte ne saurait prétendre. Timothée nous parla alors de Loïse Bourgeois, l'auteur des plus belles mélodies des psaumes, de Claude Goutimel, qui harmonisa ses mélodies et eut, dit-on, pour disciple le fameux Palestrina, et aussi de cet autre harmoniste, Philibert, dit la Jambe de Fer, qui fut tué d'une arquebusade à Paris pendant la Saint-Barthélemy. Ainsi allait le seigneur Timothée. À sa coutume, il avait commencé son dire en français, puis très vite avait glissé à la langue d'oc où il excellait. Et nous buvions ces paroles fortes et savoureuses. Ah, cette langue du berceau, est-il possible qu'on l'entende sans que le cœur saute? Elle est la marque la plus forte de la patrie. Où qu'il aille, ou que le sort le roule, le Cévenol tressaille quand il entend résonner la langue française. Mais l'eau du cœur lui monte aux yeux, si c'est le parler d'oc de son berceau. On ne peut pourtant pas s'entretenir tout le temps de la musique des psaumes, ni même du bon curé Bastide. Quelques bouteilles de très vieux langlade avec la mousse du muscat d'Ispagnac avaient peu à peu répandu sur notre compagnie cette animation honnête que Dieu nous a certainement permise quand il nous a donné la vigne et qu'il l'a destinée à réchauffer le cœur des braves gens, à ennoblir leurs pensées, n'en faisant un sujet d'abus pernicieux que pour les méchants et les niais. C'était du moins le point de doctrine qu'entamèrent bientôt en propos plaisants mon brave père et Timothée Deleuze. Cependant que nous bavardions, Florette, Nicole et moi. Nous projetions de belles courses au Rivet, à Gabriac, au Pompidou, et nous éclations de rire à tout propos. Pourtant, quand je leur dis qu'Isabeau voulait s'enfermer au couvent, Florette s'assombrit. « Et que lui as-tu dit ? » demanda-t-elle. « Ah, tu penses bien, ma Florette, que je l'ai blâmée comme il faut. » Je lui ai fait un peu honte de vouloir se dérober aux saines joies et aux douleurs sacrées de la famille. Et qu'a-t-elle répondu? Elle a pleuré, hélas, pleuré à me faire pitié. Pauvre Isabeau, dit Florette très émue, je la plains de tout mon cœur, et comme je voudrais l'arracher à ces prêtres qui l'ont détournée de la vérité. Elle a renié dans son cœur la religion de ses pères, elle ne fera point honneur à leur mémoire. Allons, Florette, dis-je, il ne faut rien exagérer. Est-ce un déshonneur maintenant de se faire catholique? Avant nos aïeux réformés, nous avons eu d'autres aïeux qui étaient tout naturellement papistes, et ils furent sans doute eux aussi de très braves gens. Pauvre Jeannot, dit-elle avec une expression de pitié profonde, tu ne sais même pas l'histoire de ton peuple. Tu ignores que nous descendons de ces Vaudois et de ces albigeois si célèbres avant la réforme de Luther et de Calvin, par leur opposition aux erreurs et à la corruption de la papauté, et que nous pouvons nous glorifier d'avoir gardé la vraie religion depuis le temps des apôtres. Donc, aussi loin que nous remontions, nos aïeux ne furent jamais catholiques romains. » J'étais tout ébahi de voir Florette si savante, et qu'elle mit une pareille fougue à me convaincre d'erreur. « Oh, Florette, lui dis-je, que tu es devenue enseignée sur la religion. Sais-tu que tu ferais une ravissante prophétesse? On dit qu'il s'en révèle tous les jours parmi nous. Et comme tu t'entendrais bien avec mon ami Élie Marion de Bar, qui étudie avec moi chez le procureur Fouré-Blanc à Toulouse. Ah, l'excellent garçon, m'en a-t-il fait des sermons? M'en a-t-il fait ?»« Élie, dit gravement Florette, est d'une famille bénie de Dieu. À Bar, l'un de ses frères a reçu les grâces. Il prophétise pour sauver le peuple. » Je ne pus retenir un sourire. « Ah, mon bon maître Baduel, que direz-vous maintenant de vos grandes filles? Isabeau m'a voulu convertir à la dévotion de la Vierge, et voici que Florette me parle sérieusement des prophètes. » Mais le sourire ébauché sur mes lèvres ne s'acheva point. M'étant tourné vers Florette, je fus pris tout à coup d'une sorte de vertige. Elle me regardait avec des yeux nouveaux, d'une gravité infinie et comme illuminée d'extase. Ses yeux, je ne les avais jamais vus. Il me semblait qu'ils grandissaient, qu'ils devenaient immenses, et je me trouvais devant eux comme au bord d'un abîme de splendeurs nouvelles, sous un scintillement d'astres vivants et lointains. « Jean, dit-elle, il ne faut pas sourire des prophètes. Il est certain que Dieu les a suscités pour nous sauver. » Et Nicole ajouta, « Que celui qui a des oreilles pour ouïr entende. Ne sais-tu point qu'il est écrit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. » Or, j'étais encore sous le coup de cette sorte de vertige qui m'avait saisi, quand l'un de nos vieux serviteurs entra vivement dans la salle et dit à mon père, « Maître, voici Abraham Mazel, qui demande le gîte. » Ce fut comme un grand silence qui tomba sur la tablée. Puis tout le monde se mit à parler à la fois. Timothée Deleuze conseillait qu'on ne reçût point le prophète, Idelette et ma mère voulaient l'accueillir. Quant à mon père, il fut embarrassé à peine un instant. Le père d'Abraham avait été son ami d'enfance, et bien que le fils, faisant le prophète, fût devenu aujourd'hui fort dangereux, Jérémie Peyrobe n'hésita point. « Bah, dit-il, nous ne faisons rien de mal et avons la conscience tranquille. Va dire à Abraham qu'il vienne. » Il partagera notre repas s'il a faim et soif. » Abraham Mazel entra. C'était un paysan du hameau de Falguière, vers le bas de notre vallée, proche de Saint-Jean de Gardonninque. Dans la force de l'âge, il était grand et bien fait. Sa figure mate, sa bouche expressive et ses yeux vifs s'encadraient d'une barbe et d'une chevelure très noire. Et il se présentait avec l'aisance digne, la fierté sans morgue ni bassesse, des meilleurs paysans de chez nous, qui se trouvent partout à leur place étant issus d'hommes libres. Celui-ci, d'ailleurs, s'imposait tout de suite à l'attention et au respect. « Que le Seigneur soit avec vous, » dit-il en entrant. « Je savais bien, Jérémie Peyrobe, que vous me donneriez asile pour cette nuit. D'ailleurs, je me cache peu. Ma tête n'est pas encore mise à prix. L'archiprêtre du Jaïla me recherche à la vérité pour avoir convoqué des assemblées. » Pour y avoir fanatisé, comme il dit. Mais il ne m'a pas encore pris. Je vais librement par la campagne, accueilli dans tous les masses, et je dois éviter seulement la rencontre des archers, et celle plus néfaste encore, des prêtres de Baal, sauterelles du puits de l'abîme. « Abraham, dit ma mère, venez d'abord vous mettre là, près de moi, mangez et buvez, et que notre aide soit au nom de Dieu. » Il s'assit, mangea et but et causa avec tous en pleine confiance. « Dis-moi, Abraham, lui demandait Timothée Deleuze, ta prairie du Fès-Blanchard dans le fond de l'aval est-elle toujours drue? Du temps de ton père, que Dieu le repose, elle faisait comme ici le rivet de Maître Peyrobe, deux coupes maîtresses et un beau tercirole. Toujours drue, Seigneur Timothée. Je l'ai fauché moi-même, et la récolte fut si abondante que j'ai eu peine à la remiser. Vous savez qu'ils ont brûlé notre grange et démoli aux trois quarts notre masse en 1698, après que Brousson, le martyr, y eut annoncé l'évangile. Et, tout seul que je suis, je n'ai pu rebâtir encore la vieille demeure de mes pères. J'y ai refait seulement un petit logis pour m'abriter au besoin. Le reste est à l'abandon, à la ruine. Mais si la récolte du foin a été bonne, on peut dire que la moisson sera mauvaise, à fin de guerre. Que voulez-vous? On n'a plus de bêtes, plus de fumier, plus d'argent. La misère là-bas devient tous les jours plus noire. On ne pouvait cultiver ces terres maigres et escarpées qu'en cédant les uns les autres, et il y fallait tout le monde à Falguière. Or, depuis la fameuse assemblée de 1698, la moitié du hameau est aux galères, ou peut-être au fond de la mer. Alors le pays tombe en ruine, et la famille nous guette. Ah, on peut dire que l'abbé du Chayla est un grand massacreur de pauvres gens. « Que veux-tu, mon ami ?» dit Timothée. « L'abbé accomplit sa mission. Il y met peut-être un zèle amer, une âpreté d'inquisiteur, soit, mais enfin, il est convaincu qu'il fait son devoir. Nos paysans font-ils le leur quand ils abandonnent leurs terres pour s'en aller préchailler dans les assemblées ?» Et prévenant une protestation d'Abraham, « Laisse-moi parler, je te prie, que je te dise que je n'approuve pas, moi, tous ces sermons au désert, que chacun prie à sa guise dans son fort intérieur, en sa maison bien close, on ne peut l'en empêcher. Pour l'extérieur, c'est autre chose. Le roi est maître chez lui. On doit lui obéir lorsqu'il interdit les assemblées, car si le roi n'est plus obéi, que reste-t-il? Peux-tu me le dire? Tant y a que tout va de mal en pis, et qu'avec vos assemblées et vos prophètes, vous allez nous attirer le malheur et la ruine. » Abraham se dressa. « Timothée de Leuz, dit-il solennellement, vos paroles me vont au vif du cœur, et vous m'avez rassasié d'herbes amères. Maintenant, j'en appelle au tribunal de votre conscience, à l'épreuve de votre race. Vous dites qu'on doit obéir au roi. Moi, je réponds que Dieu passe avant le roi. Quand le roi viole la loi de Dieu et qu'il déchire la loi des hommes, il n'est plus le roi. Nous n'avons plus de fidélité à lui garder puisqu'il a répudié sa parole et nous est infidèle. Oui, je le dis en vérité, il n'est plus monarque sur Israël, mais prince de Babylone. » Timothée se leva scandalisé. « Malheureux! Qu'oses-tu dire? Qui t'a pris à blasphémer contre le roi? » « Je ne blasphème pas. Je dis qu'il ne suffit pas au roi de Paris de nous faire prosterner de force devant des idoles de plâtre, mais qu'il nous traite encore comme si nous étions des Turcs ou des barbares et non point ses fidèles sujets. En quel temps, en quelle contrée vit-on une fois, je vous le demande? Pareille tyrannie, si complet égorgement de tout un peuple. Ah, nobles et bourgeois, riches que nul n'inquiète dans votre apostasie, vous prêchez l'oubli et la paix, et vous vous endormez tranquille dans vos logis, cependant que dehors, votre peuple est crucifié. Pharisiens hypocrites, vous êtes beaux vus de dehors et plaisez aux puissances. Vous bouchez les oreilles pour n'ouïr point les cris de détresse de la veuve et de l'orphelin. Vous serrez sur vos yeux le bandeau de cuir dur afin de ne pas voir les potences et les roues où expirent les meilleurs de nous. Comme Pierre, vous vous cachez dans un coin de la cour de Caïphe et reniez ces justes que l'on mène au bûcher. Malheur, malheur à vous, car tôt vous entendrez chanter le coq et pleurerez amèrement. » Idelette s'était levée. « Arrête, ô Abraham Mazel, ne porte point ta malédiction sur nous, qui sommes de pauvres pécheurs dans l'affliction. Dieu seul sonde les cœurs et les reins. » Abraham lui prit les mains et les baisa. « Damoiselle Idelette, dit-il, charitable servante de Dieu, que le Seigneur garde la maison du ministre Daniel de Leuz. Je ne maudis personne. J'annonce le malheur qu'il se prépare aux nobles, aux bourgeois qui nous ont abandonnés, soit qu'ils aient fui à l'étranger, soit qu'ils aient renié leur foi pour courir à Versailles ou rester au pays et garder leurs richesses. Ah, ils n'ont pas suivi la voie étroite du Seigneur. » Lettré, bouleversé, Timothée de Leuz alors l'interrompit. « Qui t'a permis, Abraham, de nous parler ainsi? Qui t'a donné le droit de juger? Ton jugement, je ne l'accepte point. Je te répète la vérité. Au lieu de courir par monts et veaux, restez chez vous et travaillez. La paix et l'abondance renaîtront quand vous ne laisserez plus rouiller votre arrière et le pousserez ferme dans vos guérets qui bientôt vont tomber en friche. » « L'arrière, l'arrière !» s'écria Mazel. « Mais je l'ai manié, Seigneur Timothée. Je l'ai poussé plus de 20 ans, l'arrière, dans mon pauvre guéret de Falguière, où verdoie le châtaignier, où la fougère envahit tout. Je me suis désonglé les 10 doigts pour défricher la terre ingrate, jamais trop fouillie, jamais trop amendée, et qui paie mal nos sueurs. Tel que mon père et mon aïeul, j'ai bâti mes bancelles, je les ai remparées, j'ai arrosé mon jardin, sarclé mon esparcette, et l'automne, j'ai cueilli mes châtaignes. Voyez mes mains, elles sont rudes et boursouflées de piqûres. Qu'importe, je te respirais avec délice, ô misère, dans l'aube du matin, parmi les fleurs de primevère et la chanson de mes abeilles, car la paix de Dieu m'habitait. Maintenant, c'est fini, les amalécites sont partout, ils nous enserrent d'un filet mortel. Dans les sentiers pierreux, je n'irai plus avec ma mule, au clair chanté de ses grelots. On ne me verra plus émonder mes pruniers, débroussailler ma blâche. Je n'élargirai plus mes brebis vers les hauts pâturages. Adieu, la flambée pétillante au coin de l'âtre où ma pauvre mère cuisait le bajana. Ma mère est morte et je l'ai enterrée à la cime de la prairie, non loin de notre vieux noyer. De tout mon patrimoine, je n'emporte avec moi que la Bible de mon aïeul. Tout agité d'un long frisson, le prophète un instant se tut. Puis, s'étant passé les mains sur le front, il les éleva vers le ciel et, comme sortant d'un rêve, il clama tout à coup « L'arrière ! L'arrière ! Qui m'a brisé l'arrière au doigt ! Seigneur Timothée m'en doit un œuf ! Dragon d'enfer, vomissure de Gog et de Magog, oui, le jour est venu que vous allez payer vos dettes. J'ai vu les maisons effondrées et l'incendie sur les moissons, et je me suis tue. J'ai entendu les mères hurler à la mort dans le crépuscule, et mes pieds se heurtèrent à des cadavres d'enfants écrasés sur les dalles. J'ai vu les soldats du roi étripant les femmes grosses, fouettant les vierges nues, et je me suis tue. Oh, malédiction! J'ai vu les enfants de Dieu poursuivis comme bêtes sauvages, et au désert les assemblées des fidèles surprises et massacrées. J'ai entendu le râle des vieillards qu'on égorge. Ah, misérable lâche! Devrais-je donc toujours me taire? De paix, il n'en est plus, ô Timothée de Leuze, de paix, il n'en peut plus être, car la folie de Babylone est sur eux, et Dieu les marque pour l'abîme. Et l'esprit m'a saisi, et m'a dit, je te commande, mon enfant, de prendre les armes pour délivrer tes frères. Autour de la table, nous nous étions tous dressés. Florette regardait Abraham de ses grands yeux d'abîme. Le prophète continua. « Les armes! Les armes! Quelles armes, ô mon Dieu! Nous avons la fourche, nous avons la hache et le pic, nous avons la faux. Que pouvons-nous contre la force des dragons? Ils ont miné toute la montagne et fait sauter le roc pour tracer des chemins royaux. Maintenant, ils paraissent partout, et il faut bien connaître les cavernes du désert pour s'y cacher à temps quand ils arrivent. Plus de ministres! Voilà 17 ans qu'ils sont partis !» Seul Claude Brousson et votre fils, ô Timothée de Leuze, ont osé revenir pour consoler le peuple. Le sublime Brousson a subi le martyr. Quant à Daniel de Leuze, il fut sauvé pour la gloire de Dieu qui sait bien ce qu'il fait. Et je vous dis en vérité que Daniel reviendra pour rebâtir les temples. Or, en ces jours de deuil abandonnés de tous, livrés à la soldatesque étrangère, qu'aurions-nous fait, mon Dieu, si tu n'avais regardé vers nous, si ton esprit ne nous avait visités? Ah, tu n'as pas voulu, ô Éternel, dans ta bonté suprême, nous laisser comme des bêtes sans une parole d'espérance, et tu nous as réparti tes dons, et sur les ruines de tes temples, et dans le désert patrial, nous avons rétabli ton culte et chanté ta louange. Les riches qui partaient nous criaient en fuyant, « Allez-vous-en, vous aussi !» Mais comment s'en aller? Il faut de l'argent pour courir les chemins. Et puis, Dieu de justice, ne sommes-nous point ici chez nous? Avons-nous le droit d'abandonner cette terre que nous ayons faite nôtre? Est-ce que leur tombe sacrée ne nous ordonne pas de rester? Aussi, nous resterons, oiseaux de nuit, nous crions dans la nuit, nous donnons le signal, le peuple accourt en foule au fond du désert effrayant, et pour marquer la voie qui mène aux saintes assemblées, des flambeaux de miracles paraissent dans le ciel, et l'on entend, sous les étoiles, les anges de Dieu chantant des psaumes. Par songe en un jardin, j'ai vu des bœufs gras et noirs qui pâturaient dans les verts légumes, et quelqu'un me disait « Chasse-les, ami, chasse ces bœufs gras !» Mais je ne voulais point faire. À la fin, cependant, je pris un billet odieuse et les frappant les dispersai. À quelques jours de là, l'esprit me saisit de nouveau et me dit « Je t'assure, mon enfant, que ce jardin que tu as vu est l'église, et les bœufs gras et noirs sont les prêtres qui la dévore, et je t'ai choisi pour les mettre en fuite. Va, mon enfant, et les chasse. Mon Dieu, à quelle entreprise m'as-tu voué? N'as-tu donc point sondé le néant de ta créature? Je me suis mortifié dans le jeûne et la méditation. J'ai prié le Dieu pitoyable qu'il écarta de moi la tentation de la colère. Et toujours, sans relâche, l'esprit me commande de prendre les armes. Alors, j'erre par le canton. Les hommes reprennent sur mon orgueil. Les autres se rient de moi. Que faut-il faire, ô Timothée de Leuze ? Mais Timothée, les coudes sur la table, la tête dans ses mains, sanglotait doucement depuis que Mazel avait évoqué la mission de Daniel de Leuze, son fils unique et bien-aimé. Quant à Florette, elle était si émue qu'elle défaillait, et dans le moment qu'elle allait tomber, je la pris dans mes bras et la portai sur la terrasse au grand air de la nuit.